aujourd'hui à Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry et Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Singapour prêt pour le sommet historique Donald Trump, Kim Jong-un.
Elle est historique parce que, au fond, symboliquement, elle va pouvoir mettre fin à la guerre de Corée.
Refusée par l'Italie et par Malte, c'est l'Espagne qui accepte un navire avec plus de 600 migrants. En Centrafrique, un casque bleu burundais a été tué à Bambari, dans le centre du pays. Au Burkina Faso, la question des rémunérations des agents de la fonction publique fait toujours débat. Quel est le rôle de la CPI? Certains se posent la question après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba.
Cet acquittement nous conforte dans le fait que la CPI est une organisation qui va juger réellement selon les droits du prévenu.
Dans la Minute Éco, la Côte d'Ivoire veut développer son réseau électrique et le Sénégal termine sa préparation du mondial par une victoire dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Et à la une de l'actualité, le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les ultimes préparatifs à la veille de leur sommet historique. Le président américain se dit confiant et impatient. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Je pense que cela va très bien se passer, a déclaré Donald Trump à l'occasion d'un déjeuner avec le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Heureux d'être à Singapour, excitation dans l'air, avait tweeté un peu plus tôt le locataire de la Maison Blanche. Il s'est entretenu par téléphone avec le président sud-coréen Moon Jae-in et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le tête-à-tête entre les deux hommes sera suivi d'une réunion avec leurs équipes respectives, puis d'un déjeuner de travail. La Maison Blanche a affirmé hier que les discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont progressé plus rapidement que prévu. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong-un à deux reprises, s'est dit très optimiste quant aux chances de réussite. Il a souligné que les États-Unis sont prêts à apporter à la Corée du Nord des garanties de sécurité en échange de sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. En 1994, puis en 2005, des accords ont été conclus mais n'ont jamais été appliqués. Depuis, Pyongyang a multiplié ses essais nucléaires et balistiques.
En Afghanistan, au moins 13 personnes sont mortes, 31 blessées à Kaboul dans un attentat-suicide revendiqué par l'organisation État islamique. Un kamikaze a fait détonner son gilet explosif à l'entrée du ministère, tuant et blessant plusieurs employés. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police. L'ex-président panaméen Martinelli, extradé par les États-Unis vers son pays. Il est accusé d'avoir détourné des fonds publics pour créer un réseau d'espionnage lorsqu'il était à la tête du Panama entre 2009 et 2014. Il avait été arrêté en Miami en juin 2017 et incarcéré dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition formulée par le Panama. Le pape François a accepté la démission de 3 évêques chiliens, dont celle du très controversé Juan Barros, à la suite d'un vaste scandale de pédophilie dans le clergé chilien. L'ensemble de l'épiscopat chilien avait présenté sa démission en bloc le 18 mai dernier, après une série de rencontres avec le pape argentin au Vatican.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et en Centrafrique, un casque bleu burundais a été tué à Bambari, dans le centre du pays, lors d'affrontements entre des hommes armés, des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source dans la gendarmerie de Bambari, qui ajoute que plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. En République démocratique du Congo, le comité des laïcs catholiques exige une enquête avec l'appui de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, sur la mort de l'activiste Luc Nkulula qui a péri dans l'incendie de sa maison samedi soir. Au Burkina, la question des rémunérations des agents de la fonction publique fait débat. La fronde sociale se durcit davantage à la veille de la conférence sur la rémunération des agents publics. Le Premier ministre Paul Kaba Tieba rassure des syndicats qui ne souhaitent pas prendre part aux discussions. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
La conférence sur le système de rémunération des agents publics s'ouvre mardi à Ouagadougou, au même moment où le contexte social reste agité, caractérisé par des grèves et sittings. Pire, une trentaine de structures syndicales refusent de prendre part à la conférence. Le Premier ministre Paul Kabatiba, obligé de lancer un appel aux syndicats.
Je voudrais inviter l'ensemble des forces vives de ce pays à une participation active, à participer activement.
L'objectif recherché à cette conférence est de parvenir à une refondation du contrat social avec les travailleurs du secteur public, fondée sur les principes d'équité, de soutenabilité budgétaire et de la solidarité nationale, a annoncé Paul Kabatiba. Les mesures qui seront issues de cette conférence permettront d'assurer la pérennité du système de rémunération des agents de l'État au Burkina Faso, a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter, la conférence va permettre de trouver une solution définitive aux revendications sociales des travailleurs. C'est la première fois au Burkina Faso qu'une telle rencontre se penche sur la question des salaires des agents de l'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et autre mouvement de grève au Tchad. Le personnel de la justice décide de poursuivre leur grève jusqu'au 13 juin. Ils exigent le limogeage des autorités militaires et civiles citées dans l'agression d'un avocat. Selon le responsable national de la Chambre des huissiers du Tchad, les grévistes demandent au gouvernement, outre leur limogeage, de les mettre à la disposition de la justice. Au Mali, des jeunes de Kenyeba ont saccagé et incendié la sous-préfecture, le domicile du préfet, du sous-préfet et d'un député. Aussi, les toutes nouvelles cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du mois prochain seraient ainsi parties en fumée. Comment en est-on arrivé là? Modibo Dembélé a joint Idrissa Kané, préfet de Kenyeba.
Ce qui s'est passé ce matin est le couronnement d'un malheureux processus. Le 21 mai 2018, il y a certains travailleurs de la mine, qui sont des jeunes de Kenyeba, qui ont barricadé les portes d'accès de la mine, empêchant du coup les travailleurs de rentrer et les employés de la mine qui sont là-dedans de sortir. Donc, quand ils ont fait ça, le directeur de la mine m'a saisi, m'a dit de parler à ces gens-là pour qu'ils puissent libérer. J'ai envoyé mes deux adjoints, plus le maire, son adjoint, le président de l'Ecotrad, les responsables militaires, pour leur dire de lever les barrages, de venir, on va négocier. Ils ont dit non, ils ne négocient pas. Ils ont des doléances, mais leur doléance principale, c'est le licenciement de la directrice des ressources humaines de Gongoto. Gongoto, c'est le nom de la mine. Donc, la mine a suspendu ceux qui étaient dans cette situation. Donc, dès qu'ils ont été suspendus, ils sont venus me voir pour me demander d'écrire officiellement à la mine pour leur dire d'annuler la procédure qu'ils ont engagée contre eux. Sinon, ils vont faire la même chose que ce qui est arrivé à Jean Fouilla. Donc, c'est en application de cette décision à leur niveau qu'ils sont sortis en masse ce matin. Ils ont enroulé toutes sortes de personnes. Donc, ils ont marché sur le cercle, ils ont pillé le cercle, ils ont pillé ma résidence, ils ont pillé le véhicule de fonction, les véhicules privés, ils ont tout pillé. On est à ce niveau aujourd'hui.
Oui, c'était Idrissa Kané, préfet de Kenyeba, dans l'ouest du Mali. En Guinée, l'éboulement d'une mine d'or fait 5 morts et 2 blessés. Elle se trouve dans la préfecture de Siguiri, dans le nord-est du pays. Selon le vice-président du district endeuillé, Youssouf Simagan, plusieurs personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'éboulement. Il aurait fallu de longues heures pour récupérer certaines victimes. Ce bilan vient s'ajouter à celui survenu en avril dernier dans la même préfecture et qui avait occasionné la mort d'un jeune orpailleur dans un puits d'exploitation. L'Espagne a finalement accepté d'accueillir 629 migrants bloqués au large de la Libye. L'Italie et Malte avaient refusé d'accueillir ces migrants dans leur port d'embarcation. Le point avec Marie Benson.
Depuis hier, 629 migrants à bord d'une embarcation sont bloqués en Méditerranée, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs non accompagnés. Les migrants souhaitaient débarquer à Malte ou en Italie, mais les deux pays ont fermé leurs portes. Les ports de Naples et Palerme ont fait savoir qu'ils étaient prêts à accueillir ces migrants, mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit qu'il ne voulait pas que son pays devienne un énorme camp de réfugiés. De son côté, le premier ministre maltais, Joseph Muscat, a refusé d'ouvrir son port pour accueillir le navire. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a demandé à ces pays l'ouverture immédiate de leurs ports et le gouvernement allemand aussi appelle au devoir humanitaire de tous les partis.
Et le roi Mohamed VI du Maroc et Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, vont avancer un méga projet de gazoduc. Un accord de coopération à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé à Rabat à l'occasion de la visite officielle de 2 jours du président nigérian. Ce projet consiste en une extension vers le Maroc d'un gazoduc qui fonctionne depuis 2010 et qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Et en Côte d'Ivoire, 200 millions de francs CFA sur 1 milliard de francs CFA recherchés ont été mobilisés par la communauté musulmane ivoirienne un mois après le lancement du projet de création d'une télévision nationale islamique Al Bayan, lancée en mai dernier par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a vu un programme de développement de son réseau électrique et ambitionne d'atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6600 MW en 2030. Abidjan envisage aussi de faire participer les énergies renouvelables à hauteur de 11% d'ici à 2020 et 16% en 2030. La Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un réseau de 5000 km de lignes à haute tension et d'une puissance installée de 2200 MW. Chaque année, la demande brute nationale augmente de 5%. Le pays exporte aussi vers le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Bénin ou le Togo. Au Cameroun, des épaves de vieux bateaux entravent l'activité et la compétitivité du port de Douala depuis 33 ans. Ce sont au total 80 épaves de bateaux qui encombrent le port de Douala. Le retrait de ces bateaux abandonnés va coûter légèrement moins de 5 milliards de francs CFA. Cette semaine, on a commencé à les enlever. Dans un premier temps, 25 épaves présentées comme les plus dangereuses seront enlevées sur 8 mois. Plus de 95% du trafic portuaire du Cameroun passe par le port de Douala, le plus grand d'Afrique centrale. Le Nigeria veut ressusciter la filière cacao pour diversifier son économie. 90% des revenus d'exportation et 70% des recettes de l'État proviennent du pétrole.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Le Sénégal termine sa préparation du mondial par une victoire.
Et oui, après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, et une défaite contre la Croatie 1-2, les Lions de la Teranga ont renoué avec le succès en s'imposant 2-0 face à la Corée du Sud en Autriche pour leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Dans une rencontre disputée à huis clos et sans caméra, peu d'informations filtrées. Les hommes d'Aliou Cissé ont ouvert le score sur un but contre son camp, consécutif à un centre de Pape Aliou Ndiaye, 54e minute, puis Moussa Konaté a fait le break sur pénalty en fin de partie à la 85e. Cette victoire face à un autre mondialiste, la première en 2018, va faire du bien aux Lions avant leur entrée en lice au Mondial le 19 juin contre la Pologne.
Et Mohamed Salah n'a pas participé au premier entraînement des Pharaons à Grozny en Russie.
Blessé à une épaule il y a 15 jours lors de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Mo Salah a assisté à cette séance d'entraînement sur la pelouse de l'Akmat Arena. Les choses évoluent dans le bon sens et mon moral est excellent, a confié l'attaquant vedette de Liverpool. Mohamed Abou Al-Efa, le médecin de la sélection égyptienne, a indiqué que Salah était toujours incertain pour le premier match contre l'Uruguay le 15 juin. Les Pharaons doivent également affronter dans le groupe A la Russie le 19 juin, puis l'Arabie Saoudite le 25 juin.
Marché des transferts. Etebo interrompt sa préparation pour signer avec Stoke.
Le milieu nigérien qui s'apprête à disputer le Mondial 2018, après avoir fini la saison avec Las Palmas, a interrompu sa préparation pour signer un contrat de 5 ans avec Stoke. Le joueur de 22 ans, international à 14 reprises, a cédé au club anglais pour 7,2 millions d'euros. En Russie, il affrontera avec les Super Eagles, l'Argentine, la Croatie puis l'Islande dans le groupe D.
Et enfin, Patrick Vieira, lui, est le nouvel entraîneur de Nice.
L'ex-milieu de terrain de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, avec les Bleus, va succéder à Lucien Fabre au poste d'entraîneur de l'OGC Nice. Jusqu'ici entraîneur du New York City FC en MLS, Vieira, 41 ans, a paraffé un contrat de 3 ans. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les maillots de l'AC Milan, d'Arsenal, de la Juventus Turin, de l'Inter Milan, avant de prendre sa retraite en 2011 à Manchester City. L'ancien capitaine des Bleus, 107 sélections, sélection a débuté sa carrière d'entraîneur à la tête des jeunes de Manchester City, les moins de 19 ans, puis les moins de 21 ans, avant de s'engager à New York.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Raïssa Girondin, toujours avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. À Singapour, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les ultimes préparatifs de leur sommet, demain mardi le 12 juin. Pourquoi cette rencontre très attendue est qualifiée d'historique? Idriss Fall a joint à Paris Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et spécialiste des deux Corées.
Elle est historique parce que, au fond, symboliquement, elle va pouvoir mettre fin à la guerre de Corée. Et donc, à un moment très particulier de l'histoire de la péninsule coréenne, elle va pouvoir modifier, je dirais, l'ordre sécuritaire qui a découlé de cette guerre de Corée, avec une présence militaire américaine très forte, des relations de sécurité très fortes entre les États-Unis et la Corée du Sud, et donc va permettre de revoir le positionnement stratégique des uns et des autres.
Mais est-ce qu'on s'attend à des percées?
Un traité de paix sera très facile à atteindre, à négocier, à signer tout de suite, puisqu'au fond, la péninsule est restée depuis près de 70 ans sous un régime d'armistice qui était quand même assez anormal. En revanche, on parle beaucoup de la dénucléarisation, qui est quand même une étape extrêmement importante de la rencontre, mais cette dénucléarisation, elle sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il faut être réaliste. Elle ne peut pas intervenir demain et faire l'objet d'un accord entre Trump et Kim Jong-un. Et le président américain en a convenu lui-même en disant récemment que c'est un processus qui sera long, et on imagine qu'il va y avoir un communiqué où on parlera effectivement de la bonne volonté des uns et des autres concernant la dénucléarisation, mais que le processus sera mis en œuvre par des équipes techniques qui vont intervenir et discuter après la rencontre au sommet des deux dirigeants.
Justement, que signifie dénucléarisation? Qu'est-ce que ça signifie?
Le problème, c'est qu'on a bien le sentiment que dans l'esprit américain et dans l'esprit nord-coréen, ça n'est pas la même chose. Puisque depuis le début, on a entendu parler et revenir à un concept qu'on connaissait déjà, qui est la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Le sigle CVID en anglais. Pour la Corée du Nord, la dénucléarisation n'intéresse pas uniquement le programme nucléaire nord-coréen et sa relation avec les États-Unis, mais doit être compris comme un problème régional. Parce que dans toutes ces déclarations, finalement, Kim Jong-un parle de dénucléariser la péninsule et a bien dit à plusieurs reprises qu'effectivement, il ne voyait pas l'utilité de conserver un programme nucléaire si des garanties de sécurité suffisantes lui étaient accordées. Donc on voit bien que de part et d'autre, on a une vision très claire de ce que doit être la dénucléarisation et ce n'est pas une vision qui est convergente.
C'était Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire en France et spécialiste des deux Corées. Et toujours dans le dossier nord-coréen à la veille du sommet, quel a été le rôle de la Chine? Timothée Donangmai a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
On peut penser que la Chine veut que la Corée du Nord continue à agacer les États-Unis. Ça joue dans leur perspective d'avoir quelqu'un qui peut agir contre les États-Unis. Mais, par contre, il est aussi vrai que la Corée du Nord et la possibilité d'une guerre ou de problèmes entre la Corée du Nord et les États-Unis est un problème pour la Chine. Il veut que ce problème soit résolu dans une certaine façon. Donc, c'est ce que je vois, c'est une espèce d'ambiguïté. Il y a deux côtés de ce problème en ce qui concerne la Corée du Nord.
Et la Corée du Nord, elle-même, voudrait également afficher une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine.
C'est vrai, mais ils ont aussi rencontré les Russes. Donc, ils essaient d'avoir le soutien des Russes et des Chines contre les pressions des États-Unis. C'est un aspect du problème. Et ils dépendent, ça c'est sûr, sur la Chine. Donc pour la Corée du Nord, je pense qu'ils jouent un peu entre les deux côtés. Ils ont réuni récemment avec à la fois la Chine et les Russes. Et maintenant, ils jouent avec les États-Unis. Je crois qu'ils jouent une espèce de jeu des deux côtés pour voir ce qui va arriver.
Mais jusqu'où ce jeu peut-il aller?
Alors ça c'est difficile aussi de déterminer la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il veut même voir? Parce que on peut dire pour le leader de la Corée du Nord, la chose la plus importante, c'est de maintenir ce qu'ils ont déjà arrivé à avoir, c'est-à-dire la nucléarisation de la Corée du Nord. C'est un moyen de dire que nous avons quelque chose qui est important. Ils ont essayé pendant 20 ans d'années d'avoir cet armement, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire finalement, nous ne le voulions pas? Alors ça, c'est difficile à voir, sauf que les problèmes de la Corée du Nord est tellement difficile. Le nombre de personnes qui n'ont pas de nourriture, le nombre qui sont en prison. L'avenir de ce pays dans cet état est difficile à figurer, vraiment. Donc, c'est deux côtés. Le gouvernement maintient son pouvoir avec les armes nucléaires, mais à la fois, ça pose des problèmes long terme pour le régime de Corée du Nord.
C'était James Cesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie. Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler que le monde au féminin, c'est à 19h05, temps universel, ce mardi. Nous parlerons de l'application et l'applicabilité des sanctions internationales pour viol de masse en temps de guerre ou en zone d'insécurité avec Sophie Huvé, chercheuse en droit international à l'Institut Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. À très bientôt. La justice internationale est une justice complémentaire, a fait noter l'Association ivoirienne d'éducation à la citoyenneté. Des mots prononcés à l'issue de l'acquittement prononcé par la CPI à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. Est-ce un signe de réconfort pour les autres détenus de la CPI, notamment l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo? Irénée Herman-Ongbo a recueilli la réaction du docteur Christophe Kwame du Forum civique de Côte d'Ivoire.
Pour nous, organisation de la société civile ivoirienne, sachant que nous avons l'ancien président Gbagbo à la CPI, cet acquittement nous conforte dans le fait que la CPI est une organisation qui va juger réellement selon les droits du prévenu. Et toutes les ONG de droits de l'homme de la société civile ivoirienne ont toujours souhaité que toutes les personnes incriminées dans la crise post-électorale puissent passer devant la justice nationale ou alors devant la CPI. Et il y a quelque temps, tous les pays d'Afrique voulaient sortir de la CPI. Nous faisons partie des organisations de la société civile qui avons dit non, acceptant que la CPI juge. Donc nous, on n'est pas surpris que M. Bemba soit acquitté, ne sachant pas forcément l'issue du procès.
Il y avait eu des éléments de preuve qui ont favorisé sa condamnation il y a quelques années à 18 ans de prison. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé du coup?
Non, mais les éléments de preuve dont vous parlez, quand le procureur instruit un dossier, effectivement, on arrête la personne parce qu'il y a des éléments de preuve. Maintenant, c'est à l'accusation de donner la preuve directe, c'est-à-dire de convaincre le juge et les jurés pour qu'on puisse condamner. Donc c'est là que les preuves n'ont pas été suffisantes et que les avocats de Jean-Pierre Bemba ont réussi à le faire sortir. Voilà ce que nous on peut dire sans avoir lu tout le dossier qui a basculé en sa faveur. Nous l'attendons incessamment.
Alors pensez-vous dans ce cas que le président Gbagbo pourrait se retrouver dans une position aussi confortable comme celle de Bemba très prochainement?
Sans connaître l'issue du procès, nous pensons que le procès, parce que nous avons une ONG nommée OIDH qui le suit au jour le jour, et donc nous avons l'information au jour le jour de ce procès. Sans connaître l'issue, nous pensons qu'il a des chances, comme tout prévenu, des sorties libres de ce procès-là. Pour nous, que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit les juridictions nationales africaines, tout justiciable a la présomption d'innocence. Et deuxièmement, toute juridiction a pour obligation de donner la preuve que le prévenu est fautif. Voilà un peu les principes généraux qui régissent tous les tribunaux du monde. Maintenant, quant à parler de crédibilité, je ne rentre pas dans l'émotion des présidents africains qui se battent pour être dans l'impunité globale en voulant sortir de la CPI.
C'était le docteur Christophe Kouamé du Forum civique de Côte d'Ivoire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Et au Burkina Faso, conférence très attendue demain sur la rémunération des agents publics. L'objectif, selon le Premier ministre Paul Kabatieba, est d'aboutir à une maîtrise de la masse salariale à travers une refondation du contrat social avec les travailleurs. Alors pour un éclaircissement, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Élie Kabouré, journaliste économique.
Depuis que le président Kabore est au pouvoir, le pays a enregistré plusieurs types de grèves sectorielles, des grèves qu'on ne voyait pas au Burkina. Et entre 2016 et 2017, il y a eu près de 68 grèves, jours de grève enregistrés. Et cela a beaucoup impacté sur la mobilisation des recettes. Donc dans son message de nouvel an, le président a dit qu'il faut mettre fin au règlement des problèmes des travailleurs au cas par cas. C'est vraiment son terme qu'il a employé. Et désormais, il voudrait que la résolution des problèmes de travail se fasse d'une manière globale et durable. Donc, ce qui a amené un peu la convocation de cette conférence, en début février, ils ont remis une étude diagnostique qu'ils ont eu à faire à toutes les parties prenantes qui ont accepté de participer à cette conférence, qui ont eu à faire des propositions. Donc, la conférence qui s'ouvre demain, c'est de vraiment faire la synthèse des propositions et maintenant définir une solution durable pour toute la fonction publique au Burkina.
Est-ce qu'on va remettre en cause les acquis des travailleurs?
Quand on écoute un peu les experts, un acquis, c'est au niveau du salaire. Alors que les différentes propositions, puisque nous avons eu accès au niveau des documents, les différentes propositions tendent à revoir à la hausse le salaire de base de tous les fonctionnaires. Maintenant, la crainte au niveau de certains corps de métier, comme les finances, la douane, les impôts, c'est qu'ils ont des avantages qui sont, on peut appeler des motivations. On prélève un certain taux sur les recouvrements qui ont été faits pour payer des motivations au niveau des financiers. Et se trouve qu'aujourd'hui, le débat national, c'est que cette motivation dépasse de loin le salaire. Donc, la tendance est de revoir à la hausse des salaires, mais tout en réduisant un peu ces avantages-là.
Alors, il y a certains syndicats qui disent qu'ils ne vont pas participer à la conférence de demain. Quels sont leurs arguments?
Le principal argument que ces syndicats avancent est que la conférence devait se passer entre le gouvernement et les travailleurs. Cette conférence devait plutôt discuter de la répartition des richesses nationales. Mais quand vous lisez un peu les propositions que les uns et les autres ont eu à faire, il ne s'agit pas d'aller discuter seulement des questions de rémunération salariale, mais c'est vraiment les aspects abordés par cette partie des syndicats qui refusent d'y aller. C'est-à-dire comment gérer toute cette richesse naturelle, les ressources naturelles, et les ressources minières, les ressources forestières, etc. etc. Donc, certains ont même proposé que l'on inclut dans le système de numération qui sera discuté les salaires et les avantages du président du FASO, du premier ministre, des membres de son gouvernement, le président des institutions, des ambassades, etc. etc.
C'était Élie Kabouré, journaliste au journal L'Économiste à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe Michel Joseph à la mise en onde, Thomas Blandet à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
VOA Afrique.